Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque jeudi, Antoine Garapon, ancien juge, s'empare des grands dossiers et des défis de la justice.
Avec Yvan Jablonka, historien et écrivain, qui vient de signer Laetitia ou la fin des hommes aux éditions du Seuil. Bonsoir Yvan Jablonka.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, historien, romancier, universitaire, et pourtant dans votre dernier livre, Laetitia ou la fin des hommes, c'est pas vraiment un roman parce que Laetitia a véritablement existé.
Oui, alors vous avez cité plusieurs de mes identités. Je les assume toutes et je pourrais ajouter que je suis aussi enquêteur. Enquêteur, c'est peut-être une manière de réunir toutes ces identités. Un chercheur en sciences sociales, c'est un enquêteur. Un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui enquête. Et voilà, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. J'ai essayé de dire des choses vraies sur Laetitia et sur notre société.
Alors, vous dites, vous enquête, des choses vraies. Vous êtes un enquêteur, effectivement, mais vous n'êtes pas un enquêteur à la façon d'un enquêteur de police ou même d'un roman policier. C'est moins la vérité factuelle qu'une autre vérité qui vous a intéressé dans Laetitia, une vérité comme si vous cherchiez à donner chair en quelque sorte à une vérité judiciaire, à une enquête judiciaire, une chair sociale, une chair psychologique, une chair politique aussi d'ailleurs.
Il faut bien se figurer la manière dont j'ai rencontré Laetitia Perret comme des millions de Français. Je l'ai rencontrée à travers un fait divers horrible en janvier 2011. Je l'ai rencontrée à travers une de journal télévisé. Et on apprend qu'une jeune fille s'est fait massacrer à 50 km de Nantes. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire, c'est rendre à Laetitia, non pas la vie, c'est pas possible, mais sa dignité, sa singularité, son sourire, le fait que c'était une jeune femme pleine d'avenir. Donc j'ai voulu d'abord raconter toute sa vie, jusqu'à sa mort. Alors bien sûr, je parle de sa mort et de l'enquête criminelle, mais c'est avant tout pour rendre hommage à celle qu'elle a été.
Il vous fallait faire connaissance avec un mort, en quelque sorte.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était disparu. J'ai rencontré une absente. Alors c'est un peu bizarre, mais Laetitia Perret est présente à nous parce qu'elle est absente, parce qu'elle est morte. Et tout mon livre, ça a été de lui redonner... cette force de vie qui était la sienne, cette joie de vivre. Laetitia en latin, ça veut dire la joie. Et ça a été un peu mon travail. Et en tant qu'enquêteur, je viens après d'autres enquêteurs. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a intéressé.
Mais bien sûr, vous venez après. Et d'ailleurs, ça se sent, je crois, que ce travail-là ne peut être fait qu'après. Pour encore une fois, pour non pas contester une vérité judiciaire qui est le grand genre politique ou télévisuel aujourd'hui, la vérité sur l'affaire Laetitia, les révélations ou la critique d'une institution, c'est pas la critique de l'institution qui vous motive ou qui vous intéresse, c'est au contraire de revenir porter un autre regard à la fois sur cette histoire et sur le travail de l'institution et sur la politique et la société française.
Il n'y a pas de révélation dans mon livre. J'ai pas essayé de faire éclater je ne sais quel scandale. Et d'ailleurs, l'aspect le plus horrible, le plus sordide du fait divers m'intéresse pas et il n'est pas présent dans le livre. J'ai voulu rendre hommage à une jeune femme et aussi à tous ceux qui l'ont accompagnée quand elle était en vie. Et après sa mort, je pense à tout un service public. Je pense qu'on peut dire ce mot d'enseignants, de psychologues, de gens de l'aide sociale à l'enfance, de juges des enfants qui l'ont accompagnée quand elle était gamine avec sa sœur jumelle, et ensuite un autre service public qui a pris le relais après le crime. Et là, on est plutôt avec des juges d'instruction, des gendarmes,
un procureur
de la République, des avocats. Et là, il s'agit d'arrêter un meurtrier et de rendre à Laetitia sa dignité, puis de lui donner une sépulture, tout simplement.
C'est ça, une sépulture de mots. Mais c'est aussi, Yvan Jablonka, une manière de rendre la dignité non seulement à Laetitia, non seulement à Jessica, sa sœur, et ceux qui l'ont entourée, mais aussi, vous venez de le dire, à tout un ensemble d'acteurs, d'intervenants sociaux, de services sociaux, d'avocats aussi, du service public de la justice, qui travaillent plus ou moins de gendarmes, d'enquêteurs, qui travaillent plus ou moins bien, mais qui, tout d'un coup, c'est ce que j'ai ressenti, moi, en lisant votre livre, tout d'un coup se sentent respectés. Respectés dans la difficulté extrême de leur travail. Et dans l'affaire Laetitia, il y a aussi une autre dimension sur laquelle vous insistez, qui est l'intervention du politique, l'intervention extrêmement disruptive, pour prendre un mot à la mode, du pouvoir politique.
C'est vrai que j'ai été fasciné par l'extraordinaire travail de tous ces enquêteurs, de tous ces comme ça, de ces gens qui font vivre la démocratie au quotidien. Et je crois que vous savez ce qu'il en est, puisque Antoine Garapon, vous avez été juge des enfants, donc oui. Vous connaissez ce milieu. J'ai été comme ça très heureux de rencontrer des gens qui, dans l'anonymat, dans la solitude d'un bureau, parfois sur le terrain, font fonctionner la démocratie, la justice, l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la République. La République, tout le monde en parle et puis on ne sait plus très bien ce qu'on entend par là. Oui. Eh bien, ces gens-là qui font fonctionner une démocratie au quotidien, je les ai rencontrés. Ça a été des rencontres bouleversantes.
C'est ça. Et alors, c'est très intéressant, Yvan Jablonka. Vous insistez sur un point qui, moi, m'a beaucoup intéressé. C'est l'importance des moyens mis en œuvre pour retrouver le corps de Laetitia, où il y a des gendarmes qui travaillent à plein temps dessus. Il y a des brigades fluviales, la masse des moyens qui sont mis en proportion de quoi. On est à un moment aujourd'hui où il faut tout calculer, le rapport investissement, résultat, la proportionnalité entre la procédure et l'enjeu d'une affaire. Et là, on se rend compte qu'on ne compte pas l'État, et c'est sa grandeur, ne compte pas les moyens qu'il va mettre pour cette malheureuse jeune fille.
On est en temps de crise, et en temps de crise, eh bien, la recherche de la vérité a été jugée beaucoup plus importante que la dépense publique. Voilà. Alors, bon, certains pourront en être choqués, mais l'État au sens large, hein, un procureur de la République, un juge d'instruction...
L'État comme nous sommes tous l'État.
Bien sûr, et puis des gendarmes aussi, toute la structure territoriale de la gendarmerie a été mobilisée. Bref, cet État-là a jugé que il fallait d'abord arrêter un malfaiteur et surtout retrouver le corps d'une jeune fille, puisque le présumé, enfin en tout cas le suspect numéro un, on va dire, n'a jamais coopéré avec avec la justice. Donc pendant des jours et des jours qui se sont transformés en semaines, on n'a pas su où était le corps de Laetitia, et Laetitia, elle a bien failli ne pas avoir de sépulture. Et là, il y a quelque chose, je trouve, là encore, d'assez formidable pour être souligné. L'État a jugé qu'il était du devoir collectif de retrouver cette jeune fille et de la rendre à sa famille.
C'est ça. Et alors l'État, et ce que vous dites, permet de faire la distinction entre l'État et les titulaires du pouvoir politique, qui malheureusement n'ont pas toujours eu cette dignité dans cette affaire-là, Yvan Jablonka.
C'est pour ça que quand on dit l'État, la démocratie, la République, ce sont des termes un peu abstraits, et il faut savoir de quoi on parle. C'est vrai que l'affaire Laetitia Perret, en 2011, a été immédiatement politisée, au plus haut niveau, puisque c'est le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui s'est emparé du fait divers pour le transformer en objet politique. Alors ça se fait en deux temps, fin janvier et début février 2011. Le président de la République déclare qu'il faut d'abord, dans un premier temps, durcir la législation pénale pour empêcher la récidive. Et puis, dans un deuxième temps, il va incriminer les juges, en disant qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et là, les attaques de Nicolas Sarkozy jettent dans la rue 8000 magistrats et personnels de justice, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont le sentiment non seulement de ne pas travailler dans des bonnes conditions, mais aussi d'être la cible du pouvoir politique.
Et ça, et vous insistez, Yvan Jablonka, sur ce positionnement, comme on dit aujourd'hui, très singulier du président de la République, qui ne se pose pas comme un décideur politique, qui ne se pose pas comme un tiers, il ne se pose pas comme quelqu'un quelqu'un qui est responsable du fonctionnement, du bon fonctionnement des services publics, il veut se poser comme un sauveur. C'est-à-dire qu'il va puiser dans l'émotion même de ce fait divers, de la ressource politique, pour se poser dans une mission qui excède, et je m'adresse à l'historien que vous êtes, qui excède finalement la fonction du titulaire de la présidence, qui rappelle presque par certains côtés ce pouvoir guérisseur de la monarchie ancienne en France.
Dans l'affaire Laetitia, des dysfonctionnements, il y en a sans doute eu. Et si on fait de la politique fiction, on peut imaginer que le président de la République analyse le problème à froid, essaye de comprendre ce qui s'est passé et faire que, par le règlement ou la loi, les choses s'améliorent. Hélas, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nicolas Sarkozy a choisi la politique du bouc émissaire, hein, qui consiste à désigner un coupable. Et le coupable, en l'occurrence, c'était...
Mais ça, c'est le juge.
C'était les juges qui devenaient quasiment des complices d'un crime.
Mais on est en présence de quelque chose de très archaïque, c'est-à-dire ce mécanisme du bouc émissaire, ce mécanisme du mal qui englobe, qui se transfère comme une sorte de viralité, on pourrait dire, dans le corps social, et qui tout d'un coup se place... C'est chez ceux-là même qui devaient nous protéger du mal, c'est véritablement une crise profonde des institutions.
Oui, merci Antoine Garapon pour ces mots. C'est vrai que je me reconnais dans cette analyse. Nicolas Sarkozy, par exemple, explique que les Français sont cernés par des voyous, par des monstres, ce sont ces termes, hein, et il faut à ce moment-là protéger les Français des armées. Et il faut les protéger. Bon, bah, suivez mon regard, on a bien compris qui doit les protéger. Et donc, tout cela pose la question, d'abord, de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que le peuple? À qui s'adresse-t-on? Est-ce que nous sommes un peuple d'enfants, de victimes, de petites choses fragiles qu'on doit protéger? Ou est-ce que nous sommes des adultes et est-ce qu'on peut nous parler de manière responsable? Donc, ça pose la question de la démocratie, de ce que c'est que le peuple, et aussi de la fonction présidentielle. On est sans doute tous attachés à nos institutions, à notre président de la République, mais comme on sait, un président de la République, c'est quelqu'un qui respecte les institutions, qui assure la continuité des services publics. Je crois que Nicolas Sarkozy a pas vraiment fait ça. Par exemple, lors d'une de ses déclarations le 3 février 2011, il parle à propos du suspect numéro 1, du présumé coupable. Vous, ancien magistrat, Antoine Garapon, j'imagine que ça vous étonne.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des présumés coupables? On sait très bien, n'importe qui, n'importe quel enfant qui a fait un cours d'éducation civique, sait qu'on parle de présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.
Bien sûr. Et puis alors, c'est ce qui rend d'ailleurs ce fait divers très intéressant et par certains côtés universalisable et qui nous permet de penser ce qui nous arrive, c'est qu'il y a ce retournement de situation terrible, affreux, qui fait que le père responsable du foyer d'accueil, de là où était la petite Laetitia, reçue par le président à plusieurs reprises, s'avère être l'auteur de, on peut le dire maintenant, puisqu'il a été condamné, lui, de violences sexuelles sur sa sœur jumelle, peut-être même sur Laetitia, ça on ne saura jamais. Là, du coup, on voit le piège qui se referme sur le président de la République, qui s'est par certains côtés trop avancé dans cette affaire.
Disons que Nicolas Sarkozy s'est laissé prendre à son propre piège, celui de l'urgence, de l'impétuosité, de la recherche de coupables qu'on met immédiatement face à des victimes, des sauveurs, des chevaliers blancs. Mais je ne sais pas si une démocratie a besoin de ce storytelling avec d'un côté des monstres, de l'autre des victimes. Encore une fois, c'est pas parler de manière responsable au peuple, je crois.
Et puis c'est ne pas respecter cette complexité du réel dont vous avez eu le souci tout au long de votre livre, Yvan Jablonka. Vous dites à un moment cette phrase qui m'a fait réfléchir en tant que professionnel du droit. Vous dites « un fait divers horrible exige un monstre ». C'est-à-dire que, comme s'il y avait une nécessité, une proportion nécessaire entre l'horreur d'un fait et la monstruosité de son auteur, comme si la condition humaine ne nous condamnait pas à cette disproportion monstrueuse, c'est la disproportion qui est monstrueuse entre ce que nous faisons et les conséquences de ce que nous faisons.
Oui, là, il faut aussi s'intéresser au rôle des médias, parce que Laetitia Perret n'existerait pas sans la médiatisation extrême de sa mort, sans l'onde de choc que les médias ont répercuté aux quatre coins du pays. Donc là encore, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, il s'agit de comprendre un fonctionnement collectif. On est tous attachés à nos médias, à nos journaux.
Infiniment nécessaire pour la démocratie.
Mais bien sûr, évidemment. Et en même temps, on voit bien que là, il y a eu une espèce d'emballement médiatique qu'on a fait de Laetitia une espèce de d'ange ou de sainte. Et là encore, on n'est plus dans un rapport au réel. Donc, mon livre, c'était aussi, en tant qu'historien, en tant qu'écrivain, restituer aux choses leur nom, expliquer des phénomènes et le faire sans attaquer personne, faire avec sérénité.
C'est ça. Et cette innocence construite, elle aussi est inhumaine. Parce que Laetitia, comme toute jeune fille, comme chacun d'entre nous, elle est ambivalente. Et vous avez cherché à restituer ses hésitations dans la vie, et notamment ces lettres extrêmement troublantes, ces textos, je me souviens plus, extrêmement troublants, sur un désir de mettre fin à ses jours. Et là, une fois de plus, on peut parler de quelques autres personnages, une fois de plus, on est renvoyé à cette difficulté de l'âme humaine.
Laetitia était une jeune fille solaire. Elle avait une personnalité très attachante.
Belle.
Elle était belle, elle était radieuse, elle était gentille, elle était positive, elle faisait du bien aux autres. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, sa sœur jumelle, ses proches, ses petits copains m'ont dit que c'était vraiment une personnalité qui faisait du bien. C'était un peu soit la fille, soit la bru rêvée. Enfin, quelqu'un qu'on
aurait aimé rencontrer.
Voilà, quelque chose comme ça. Et, Cela n'empêche pas de montrer la complexité de sa personne. Elle avait ses zones d'ombre comme tout le monde. Elle avait ses moments de blues comme tout le monde. Et peut-être un peu plus que
tout le monde.
Oui, parce que elle a traversé des épreuves terribles dans sa vie. Elle a connu la violence. Elle a connu des formes très dures de précarité, de pauvreté. Elle a été un peu ballottée d'un foyer en famille d'accueil. Bon, elle a pas eu une vie facile. Et pourtant, c'est ça aussi que j'ai trouvé très, très, très attachant chez elle. C'est que malgré toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, c'était une jeune fille qui s'est accrochée, qui s'en tirait. Elle avait passé son CAP, elle était serveuse, elle avait son salaire, elle était indépendante. Bon, elle s'en tirait. Et vous, encore une fois, Antoine Garapon, vous avez été juge des enfants. J'imagine que vous en avez vu pendant des années des jeunes filles, des jeunes gens, des garçons perdus.
Et je dois vous dire que ce n'est pas le dossier le pire que j'aurais eu en tant que juge des enfants dans sa progression, parce que finalement le placement semble bien se passer. Elle a une insertion professionnelle et elle ne boit pas, elle n'a pas d'addiction. Et ce qui est intéressant dans ce livre, Yvan Jabloncas, c'est que vous restituez des hypothèses, des scénarios. Et j'aime cette manière de comprendre les hommes, c'est-à-dire dans le fond, pourquoi elle suit dans cette nuit atroce, pourquoi suit-elle son meurtrier, qu'elle ne sait pas bien sûr être son meurtrier. Pourquoi ces expériences sexuelles sont aussi bâclées, pourrait-on dire. Finalement, alors c'est une hypothèse que vous émettez. Dans quelle mesure n'est-elle pas attirée par Thanatos ?
Ce qui est certain, c'est que la dernière journée de Laetitia a été une journée de tous les dangers, si on peut parler de cette manière, parce qu'elle n'a cessé de suivre celui qui allait devenir son meurtrier. Pourquoi ? Alors là, on entre dans une zone de mystère que j'ai essayé de respecter en tant qu'historien, mais aussi en tant qu'écrivain, parce qu'après tout, c'est ça aussi, respecter les autrui, d'une certaine manière. Et donc, j'ai essayé de formuler des hypothèses. Peut-être qu'elle a été attirée par le côté bad boy, le côté un peu comme ça, le gars qui sort de la coke, du shit, du champagne, et puis qui vous fait un peu faire des transgressions.
Envie de s'en canailler.
Elle avait 18 ans, elle sortait de l'adolescence. Peut-être aussi qu'elle a été attirée par le grand frère un peu cabossé de la vie. Il est très frappant de voir que son meurtrier et Laetitia ont des profils sociologiques très proches. On pourrait même dire de manière tragique que Tony Meillon, le meurtrier, a tué quelqu'un qui lui ressemblait sociologiquement.
Peut-être d'ailleurs, vous émettez l'hypothèse à un moment du livre, parce qu'elle lui ressemblait, parce qu'elle ressemblait à une mère ou à une femme qu'il n'a pas eue.
Ben disons que tous les deux venaient d'un même milieu. Hein. On est dans le Val-de-Loire, un milieu très défavorisé, avec une scolarité chaotique, de la violence familiale, de l'alcool. Et puis,
des incestes.
L'une s'en tirait et l'autre en était à sa 13e condamnation avec des années de prison. Voilà, on peut aussi dire qu'il y a eu une forme de vengeance, qui est une vengeance à la fois sociale et une vengeance misogyne, à l'encontre d'une fille qui s'en sortait. On peut aussi imaginer, ça c'est une autre hypothèse que je fais, que Laetitia s'est sentie un peu... qu'elle était dans une espèce d'impasse personnelle, qu'elle sent...
Elle voulait quitter sa famille d'accueil.
Elle était dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille d'accueil, vis-à-vis de sa sœur jumelle. Elle était un peu paumée aussi, sans doute. Et puis, il y a eu une espèce de vertige de mort qui se termine de manière tragique. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin, Laetitia a dit non. À la fin, elle a dit non. Elle a dit non à Meillon.
Ça, on
non,
sait.
On le sait. Non à la drogue. Elle lui a dit, tu me ramènes chez moi. Je vais porter plainte contre toi parce que j'estime que tu as commis des violences sexuelles contre moi. Et à la fin, elle a dit non. Et ma conclusion, c'est qu'elle est morte en femme libre.
Et ce qui lui confère une certaine dignité dans cette épreuve terrible.
Mais plus que ça, c'est surtout que Laetitia, c'était une résistante à sa manière. C'est une fille qui a été libre alors qu'elle a traversé des épreuves terribles. Et elle est morte libre.
Et dans des conditions qui ne la prédisposaient pas à exercer cette liberté. Et vous avez une expression, Yvan Jean-Blanquin, que je trouve très intéressante pour réfléchir sur le droit et pour réfléchir sur la pratique du droit. On connaît tous le livre de Michael Walzer sur les sphères de justice, qui a une importance très grande pour comprendre comment le libéralisme peut s'articuler avec le marché et le respect de la chose publique. Mais vous retournez l'expression et vous dites, dans le fond, l'expérience de Laetitia, c'est la confrontation aux sphères d'injustice. Il y a finalement, ils appartiennent, elle et son meurtrier appartiennent au même monde, ils ont connu le même destin terrible. Eh bien, il y a une réalité que découvrent tous les juges en général et tous les juges des enfants, c'est-à-dire que on est dans une même société, on est égaux en droit, mais il y a cette socialité qui crée effectivement certaines sphères d'injustice.
Ce qui m'a frappé, c'est le fait que chacun dans son domaine manque à sa mission, manque à sa parole. J'aurais tendance à dire que chacun a failli. Alors là, je parle pas du tout de ces héros de la vie quotidienne qu'on évoquait au début, qui font tourner les services publics. J'évoque plutôt des figures masculines qui étaient autour de Laetitia. Les deux pères qu'elle aura eus successivement...
Sont-elles le roi défaillant ?
Voilà. Le meurtrier, bien sûr. Le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Ce sont des figures masculines qui attestent d'un certain dévoiement. Il y a quelque chose qui dévie, qui dérive, et chacun contribue un petit peu à la fragilisation de Laetitia. Et c'est pour ça que j'ai parlé de sphère d'injustice, parce que un président de la République qui met en danger l'indépendance de la justice, c'est, par analogie, la même chose qu'un petit délinquant qui vole une mobilette. On n'est pas dans un monde où un président de la République vole une mobilette au coin de la rue. Chacun lèse le corps social à sa manière.
On pourrait dire qu'il y a aussi des sphères de responsabilité. Nous avons tous, socialement, où que nous sommes, en tant que père, en tant que frère, en tant que du métier que nous exerçons, une certaine responsabilité. En tant qu'homme aussi, d'ailleurs, vous insistez beaucoup là-dessus. Donc, il y a un dévoiement, mais on peut positiver, retourner cette proposition en termes positifs, il y a une responsabilité et qui est là, en l'occurrence, a manqué à tous.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une grande vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parlait là, mais si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même, tu pousses ses doigts, même si tu as des problèmes, tu sais. celle que je t'aime, ça t'aimera. Laisse les autres te taire, t'es drôle de peur, elle me vient avec toi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie, et on est toujours amoureux, et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'un pont, qu'est-ce que tu diras? Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même le bout de ses doigts. Et si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres problèmes, les autres totems, viens avec moi.
Alors, nous continuons notre conversation, notre discussion avec Yvan Jablanca, qui a choisi cette chanson de Véronique Sanson, un peu surprenante quand on voit le destin de cette malheureuse Laetitia.
Alors, merci Antoine Garapon d'avoir bien voulu passer cette chanson de Véronique Sanson. C'est une chanson qui est très belle, qui est pleine de gaieté, de joie de vivre, de liberté.
Et de vie à deux.
Et je l'ai choisi parce que c'était la chanson préférée de Laetitia Perret, l'héroïne entre guillemets de mon livre. On sait par des témoignages, notamment ses patrons dans le restaurant où elle travaillait, que c'était une chanson qu'elle fredonnait. Et c'est une chanson qui est à son image, pleine de vie, de joie. Et puis voilà le refrain, une drôle de vie. Voilà, une drôle de vie que celle de Laetitia Perret.
Mais alors, vous avez voulu porter témoignage, Yvan Jablanca. Ce livre entier est un témoignage. Et vous témoignez finalement, bien sûr, d'une enquête, d'un destin, d'une vie. Vous témoignez du mal, pourrait-on dire. Et vous le en témoignez d'une manière qui n'est pas justicière à votre tour. Et j'ose dire, je ne sais pas si vous accepterez ce qualificatif, qu'il y a une dimension contemplative dans votre livre. Contemplative dans le sens où il faut savoir regarder, il faut savoir parler de l'horreur et de la joindre au bien aussi, comme dans cette chanson. Est-ce que vous accepteriez cette restitution de votre projet ?
Moi, je suis un historien qui se considère avant tout comme un témoin parmi les témoins, un homme parmi les hommes. Et donc, dans mes livres, j'essaie de ne pas avoir un point de vue abstrait de surplomb qui consisterait à être extérieur à l'histoire que je raconte. Je suis dans le tableau parce que j'ai été touché par Laetitia en tant que...
Et donc, vos émotions font partie de l'enquête ?
Elles font partie de l'enquête, de même que je raconte mon enquête. C'est assez rare dans les sciences humaines que l'enquêteur raconte son enquête. Et pourtant, n'importe quel chercheur sait très bien qu'il enquête, qu'il essaye de rencontrer quelqu'un et puis qu'il n'y arrive pas, qu'il cherche des archives mais qu'il ne les trouve pas. Ça fait partie de la vie de la recherche. Et c'est ça aussi qui, je crois, donne une espèce de tonus, de tonicité au récit.
Oui, sauf Yvan Jablanca, c'est qu'il y a une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que vous auriez fait ça sur le commerce des vins dans une ville du sud-est de la France au Moyen-Âge. Bon, on cherche à comprendre comment s'organise cette activité commerciale-là. Délibérément, vous le revendiquez, et ça s'éclaire d'ailleurs de vos précédents ouvrages, il y a une dimension de réparation. C'est-à-dire que vous voulez, à travers ce travail historien, restituer, avec l'exigence d'un universitaire, cette vie, ce fait divers, ce fait qui en dit beaucoup sur notre société, et mais vous le faites dans une perspective de réparation.
Oui, c'est vrai. Ça, je me reconnais dans cette phrase. Mon travail d'historien, d'écrivain, c'est d'abord de recueillir la parole des gens, parce que j'ai rencontré les proches de Laetitia, les acteurs de l'enquête. C'est essayer de regarder. Je suis allé dans les lieux où Laetitia a vécu. J'ai essayé aussi de comprendre la société qui est la nôtre, celle de Laetitia, la mienne, et puis la nôtre à nous tous. Et cette dimension de réparation, elle est fondatrice chez moi parce que je viens d'une famille marquée par l'histoire. Mes deux grands-parents ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette absence est fondatrice chez moi. Il y a au milieu de ma famille, au milieu de ma propre vie, une absence, un manque.
Un abandon.
Un abandon peut-être. Et ça me rend très proche de Georges Perec, qui se serait reconnu, je crois, dans ces mots, la disparition, l'absence, le blanc. Et le livre que j'ai fait sur et pour mes grands-parents, pour raconter leur vie et pour pas qu'ils soient simplement de la chair à Auschwitz, eh bien ce livre est assez proche de ce que j'ai fait, de celui que j'ai fait pour Laetitia. Alors bien sûr, Laetitia n'a pas disparu dans un génocide, elle a eu une vie moins agitée que celle de mes grands-parents, mais enfin, Laetitia était en train de devenir complètement prisonnière de sa mort et du crime qui l'a détruite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Qui soulève la révolte en
moi. Vous cherchez à la libérer d'une réduction au crime dont elle a été victime.
Oui, avant que je fasse ce livre, pour tout le monde, Laetitia, c'était un fait divers, rien de plus. De même que tant d'affaires qui impliquent des enfants victimes, tant d'affaires sont réduites au prénom de l'enfant qui a perdu la vie ou son innocence. Mais... Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc, voilà, réparer les vivants, dit Malice de Kerangal dans un livre magnifique. Peut-on réparer les morts? Peut-on réparer la mort? On ne peut pas ressusciter Laetitia. On peut, en tout cas, rappeler qu'elle a été sa vie dans toute sa plénitude.
Mais Yvan Jablonka, vous faites la comparaison qui est très présente à plusieurs moments du livre avec ces crimes de masse qu'ont connus le XXe siècle, et notamment la Shoah. Et je pense au livre de Karl Jaspers sur la culpabilité allemande, qui a été d'ailleurs mal traduit. En fait, c'est un livre sur la culpabilité, hein, die Schuldfrage en allemand, et c'est pas... Il n'y a pas forcément l'Allemagne dedans. Et il dit, il y a quatre registres de culpabilité. Il y a culpabilité personnelle, ensuite groupale, nationale, morale, et métaphysique. Celle que nous portons en tant qu'homme où finalement le crime du nazisme excède ceux qui l'ont fait, excède l'Allemagne, et ce crime, je ne dis pas que c'est notre crime à nous tous, mais c'est un crime qui ne peut pas nous laisser indifférents. Et je me demande dans quelle mesure la réparation dont vous parlez, Yvan Jablonka, n'est pas finalement la réaction à cette culpabilité métaphysique. Et j'en vois un indice dans le sous-titre de votre livre. Parce que dans le fond, vous parlez en tant qu'homme. Ça revient très souvent dans votre livre, la catégorie de l'homme. L'homme générique, mais aussi l'homme, le genre humain, le genre masculin.
C'est vrai qu'en français, le mot homme renvoie à ces deux sens. Et je suis les deux. Donc tantôt je parle en tant qu'être humain, tantôt je parle en tant que détenteur d'un sexe ou d'un genre le mal...
Et la responsabilité qui s'associe à ce genre.
La grande question du mal, c'est de nous renvoyer à nous-mêmes. Pourquoi on ne supporte pas le mal? Pourquoi on ne supporte pas la violence? Pourquoi on ne supporte pas l'injustice? C'est parce que ce sont des choses qui nous heurtent dans notre humanité, dans ce que nous avons de plus intime, la conception de la justice. Par exemple, Rousseau disait qu'il ne supportait pas physiquement de voir le spectacle d'une injustice, même commise contre un animal. C'est quelque chose. Alors peut-être
c'est le cas des nazis également. D'ailleurs.
Peut-être que ça inaugure toute une tradition kantienne. Enfin bon, une réflexion philosophique. Mais la question du mal nous heurte tous. Et moi, en tant que petit-fils de déportés, de gens qui ont été assassinés, c'est quelque chose là aussi qui me traverse. On sort d'un siècle, le XXe siècle, où le mal a été omniprésent. Et pourtant, j'ai choisi un métier, historien, où cette catégorie n'est pas vraiment opératoire, n'est pas vraiment valide. On dit pas dans un livre d'histoire, les nazis font le mal. On le sait, mais c'est un autre questionnement qu'on essaye de mettre en œuvre.
Mais précisément, Yvan Jablonka, le mal, il faut être capable de le regarder. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que dans le négationnisme, dans le mouvement du négationnisme, il y a un refus. Ce qu'on constate, d'ailleurs, entre parenthèses, chez beaucoup de criminels qui ne peuvent pas supporter eux-mêmes ce qu'ils ont fait et qui contestent, qui nient sans véritablement contester parce qu'ils ne peuvent pas accepter cette responsabilité. Et pour ça, tout le problème de notre époque, et encore plus de notre époque aujourd'hui, en 2016, à la fin des grands récits, c'est d'être capable de regarder le mal, de le regarder de manière responsable, de manière de le regarder en face. Et c'est ce que j'ai compris dans votre démarche du livre, nous permettre de regarder le mal parce que c'est une expérience essentielle et à laquelle, humaine, profondément marquante, et à laquelle les médias ne nous prépare pas ou nous prépare mal en quelque sorte.
Oui, vous avez raison, Antoine Garapon, de dire tout cela. Ce qui est frappant dans le fait divers, c'est qu'il fascine beaucoup de gens. Il y a beaucoup de reportages, d'articles sur le fait divers. Et puis il y a des livres très importants qui ont été écrits autour de faits divers. Donc il y a toute une fascination autour de cela parce que ça met en œuvre.
Il peut être un peu morbide.
Ça met en œuvre la question du mal, mais aussi la responsabilité des uns ou des autres. Moi, j'ai essayé de regarder le fait divers sans fascination, en enfuyant le côté comme ça macabre, pernicieux.
Voyeuriste.
Et j'ai essayé, moi, de tourner toute ma fascination vers l'absente, vers Laetitia. Et je dis toute ma tendresse, ma fascination, parce que après tout, elle aussi, elle avait sa part de mystère. Elle aussi, c'est une personne fascinante parce que elle a vécu des choses très difficiles. Elle s'en sortait. Il y a eu un mystère de sa résistance, de sa liberté. Je me reconnais aussi, Antoine Garapon, dans ce que vous dites à propos de la manière dont on peut regarder avec justice un crime. Vous, ancien magistrat, vous savez qu'il faut avoir une certaine sérénité d'âme. Par exemple, il ne faut pas se cacher qu'il y a 50 ans, le meurtrier de Laetitia aurait été condamné à mort. Et le défendre, se réjouir qu'il soit défendu et se forcer à le défendre, c'est aussi une manière, par là même, de défendre une certaine conception de la justice.
Bien sûr, et de construire notre humanité. D'ailleurs, il y a des passages dans votre livre où vous montrez comment les professionnels, dans ce regard de justice, qui est très particulier, parce que c'est un regard qui fonctionne avec les qualifications pénales, il y a des qualificatifs que le procureur et le juge refusent d'appliquer à Tony Meillon. C'est pas un monstre, quoi. C'est un homme qui doit répondre de qualifications très précises. Et les professionnels ne cèdent pas à la facilité.
Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé quand j'ai découvert ce monde de la justice. Et là, je parle en tant que l'administration de la justice. C'est un monde que je connaissais mal. Et j'ai été d'abord vraiment fasciné par l'énormité du travail que ces gens-là accomplissent, mais aussi par leur manière de raisonner. Et je me suis senti assez proche d'un point de vue de méthode d'un juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge et qui essaye de reconstruire la vérité d'événements passés. On pourrait presque dire que c'est le travail de l'historien. Et puis j'ai été aussi frappé par la manière dont la justice travaille avec des mots, des modèles, pourrait-on dire, qui doivent coller le mieux possible à la réalité. Ainsi, Tony Meillon, le meurtrier de Laetitia, n'a pas été jugé, ni a fortiori condamné, pour meurtre, ni pour féminicide. Féminicide, c'est une notion qui existe dans certains codes pénaux d'Amérique latine. C'est ni pour meurtre, ni pour féminicide qu'il a été jugé, mais pour enlèvement suivi de mort. C'est un chef d'accusation que j'ignorais, en fait. Enlèvement suivi de mort. Alors, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Vous kidnappez quelqu'un et, par votre faute, il trouve la mort. Ça, c'est un des crimes les plus lourdement condamnés en droit pénal français. C'est pour ça que Tony Meillon a été condamné. Mais tout ça m'a intéressé, là, du point de vue de la méthode, parce que c'est une manière de comprendre le réel et d'injecter de l'intelligence dans le réel.
Mais revenons à votre projet, d'ailleurs, Yvan Jablonka, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que votre regard que vous portez sur une affaire judiciaire cherche à aller au-delà ou à donner une chair sociale, encore une fois, à une affaire. Et je pensais à la fameuse distinction des trois rhétoriques d'Aristote, où il dit la rhétorique judiciaire, la rhétorique politique et la rhétorique de l'éloge. De l'éloge, de l'hymne, c'est-à-dire, et notamment de ceux qui sont parvenus du combat, des héros. Et je trouve que cette distinction est très intéressante, et je me demande dans quelle mesure, dans votre livre, vous combinez une rhétorique judiciaire qui est celle de la qualification, qui est celle des professionnels, qui est un regard nécessairement froid, nécessairement limité, et la rhétorique de l'éloge. de l'éloge, dans le sens où l'hymne aussi, c'est une manière de faire revivre les morts ou de leur conférer une certaine éternité par le discours.
Le mot rhétorique est un petit peu piégé parce que...
Je l'entends au sens philosophique.
Bien sûr. Mais alors il faut peut-être préciser qu'au sens philosophique, c'est pas la mauvaise rhétorique qui est aujourd'hui. Voilà. Donc cette rhétorique au sens strict, qui est la rhétorique, on va dire, aristotélicienne d'Aristote, cette rhétorique, c'est vrai que je m'y reconnais, non pas pour baratiner, pour parler de la langue de bois, encore une fois, ça n'a rien à voir, mais plutôt pour démontrer quelque chose. Un juge d'instruction démontre, un avocat démontre, un journaliste d'investigation démontre, et un de leurs cousins, l'historien, le chercheur, démontre lui aussi ou elle aussi. Et ça m'a intéressé aussi dans la démarche, parce que cela montre bien que tous ces enquêteurs, chacun à sa manière, essayent de démontrer quelque chose, de prouver quelque chose, d'administrer la preuve de ce qu'ils avancent. Et c'est pour ça que mon enquête est une enquête qui englobe d'autres enquêtes, parce que je suis venu le dernier et j'ai bénéficié du travail, de la réflexion, de cette rhétorique, au bon sens du terme, que d'autres professionnels ont pratiqué avant moi.
Et qui vous ont permis, Yvan Jalblanca, d'avoir accès à... parce que vous connaissez la fin de l'histoire, cette triste fin de l'histoire en Suzanne Laetitia, tous les autres continuent de vivre, de leur ambivalence, c'est-à-dire que finalement le bien et le mal, l'horrible et le monstre, eh bien c'est nécessairement plus compliqué que ça. Quand on se penche sur la vie de Tony Mélion, quand on se penche bien sûr sur le père adoptif ou de la famille d'accueil, sur l'âme elle-même de cette pauvre Laetitia, on se rend compte que les affaires humaines sont autrement compliquées.
Moi, la notion de bien et de mal, je sais qu'elle existe en tant que citoyen, en tant qu'être humain, mais je l'utilise pas dans ma pratique parce que sinon on n'aurait que ce mot-là à la bouche. Moi, je travaille plutôt en histoire.
Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit.
Je travaille plutôt dans l'histoire du XXe siècle. On peut passer notre temps à dire que le XXe siècle, c'est le siècle du crime et du mal. Donc, ce qui m'a intéressé dans cette histoire du XXIe siècle, c'est plutôt de voir l'imbrication des malheurs, la manière dont la liberté de Laetitia s'est frayé un chemin dans l'épaisseur de la nécessité, des déterminismes, la manière dont elle a inventé sa vie. Et c'est pour ça que c'est une personnalité si attachante. Elle avait sa force, elle avait sa poésie, jusque dans ses fautes d'orthographe. Et c'est là aussi peut-être que les sciences humaines retrouvent la littérature, dans le respect pour le mystère et la poésie qui nous habite tous.
Je disais en commençant cette émission que je ne savais pas à qui je m'adressais, de l'historien ou de l'auteur de fiction, l'auteur de roman. Et finalement, il n'y a pas de contradiction, Yvan Jalblanca.
Il n'y a pas de contradiction. Maintenant, mon livre n'est pas un roman. Il n'y a pas de fiction. Mais je crois que c'est un essai de littérature. Disons que j'ai essayé de faire un travail littéraire. C'est au lecteur de dire si j'ai réussi. Mais en tout cas, la littérature ne se résume pas au roman. La littérature, c'est bien plus large que le roman.
Yvan Jalblanca, merci.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Les discussions du soir, Yvan Jalblanca, Cédric Chatelus, Corinne Amar, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.